Bon, j'avais préparé une intervention d'une dizaine de minutes parce que c'est quand même pour moi assez émouvant de me retrouver là tout de même. Mais je vais couper parce qu'on a pris énormément de retard. Hein. Alors, non, simplement, bien sûr que je suis ravie d'être là, bien sûr. Et dans ce labo, évidemment, où j'ai débuté ma carrière, avec celles et ceux avec qui j'ai partagé une histoire d'équipe, parfois agitée, souvent agitée, quelquefois moins agitée, mais bigrement formatrice. Il faut dire que, il me semble, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le recul, ce qui n'a pas grand sens, mais il faut dire que notre rapport à la connaissance, à l'époque, comme on dit, avait quelque chose à la fois d'anxieux et d'oppositionnel, somme toute. Anxieux, peut-être parfois anxiogène, mais on était assez sur le qui-vive par rapport à nos objets de recherche. Quand je dis oppositionnel, contestataire, critique, militant, et ça rejoint finalement, et c'est vrai qu'il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire par rapport à ça, nos origines militantes, nos modes de militantisme issus des années, de la fin des années 60, bien sûr. Mais bon, c'est peut-être, si j'ouvre ce chapitre, on risque de s'y attarder peut-être un peu trop. Ce que je voulais dire maintenant, c'est quand même merci. Merci aux organisateurs, bien sûr, et tout particulièrement, c'est là le moment d'émotion, bien sûr, à Joyce et à Philippe, dont j'ai longtemps partagé le bureau au boulevard de la Madeleine. Alors, évidemment, on pourrait toujours parler du boulevard de la Madeleine et de l'appartement dans lequel on a travaillé. Donc, merci de m'avoir invité pour présider cette session culture et identité dans les relations interethniques, qui est tout à fait en lien avec le programme de l'IDERIC historique sur les effets des mouvements migratoires sur les identités collectives. Alors, ce que je veux dire aussi, en préambule, c'est que si la sociologue des migrations que je suis devenue a quitté Nice pour migrer à Poitiers, et notamment participer à la diffusion des savoirs en dirigeant pendant de très nombreuses années la Revue européenne des migrations internationales, qui d'ailleurs a publié dans son deuxième numéro de 85, puisque la revue a été créée en 85, le texte « L'ordre des identités » qui va être discuté tout à l'heure par Dominique Vidal. Donc cette sociologue, somme toute, qui s'est formée, elle est partie équipée, plus ou moins bien, mais équipée d'éléments théoriques et méthodologiques, et surtout équipée, j'allais dire, d'une certaine façon de penser, une certaine façon de poser les problèmes. Philippe serait là, pourrait nous dire beaucoup de choses sur qu'est-ce que c'est que l'ère de famille chez Wittgenstein, mais bon. Et ces outils, eh bien, Michel Auriol avait largement, bien sûr, contribué à les forger dès la fin des années 70, en dirigeant le bilan des études sur les aspects humains et culturels des migrations internationales en Europe occidentale. C'est une publication de l'ESF en 1980, et Augustin Gilloire, qui est ici aussi, pourrait en dire long sur la façon, la grande épreuve qui a été de publier ce travail en anglais et en français. Donc, à la suite de ce bilan, ce bilan s'est poursuivi par le programme de recherche qui était aussi soutenu par la Fondation européenne de la science et dont le thème était une étude comparée de l'identité culturelle au sein de la deuxième génération d'immigrés en Europe occidentale, qui était somme toute la première recherche internationale sur les migrations. Et pour la partie française, Michel Auriol l'avait dégoté tant bien que mal, parce qu'il était bien difficile de se faire financer à l'époque, ce que le CNRS avait comme action, qui était une ATP, l'action thématique programmée, laquelle recherche a réuni une quinzaine de chercheurs français et portugais, de différentes disciplines des sciences humaines, anthropologues, sociologues, démographes, linguistes, psychosociologues, économistes, etc., et qui avait en charge de mener justement les enquêtes, des enquêtes empiriques sur l'évolution de l'identité culturelle des enfants d'immigrés portugais en France et au Portugal, recherche qui a été publiée sous forme de rapport. Et le versant théorique, Michel en a dit deux mots hier, le versant théorique avait pour ambition de rendre compte de la diversité des conditions d'appartenance avec pour concept central celui de l'identité-appartenance. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que Michel pourra revenir sur la construction de cet outil théorique et conceptuel identité-appartenance. Donc, c'est en prenant d'une certaine manière appui rapidement sur les travaux qui ont été développés dans les années 80 que je vais maintenant introduire à cette session en laissant la parole aux deux intervenants par une brève remarque en lien évidemment avec le thème de la séance et inévitablement en résonance avec les débats scientifiques, politiques et surtout idéologiques qui sont particulièrement saillants en ce moment évidemment, alors que les migrations, et ça tout le monde le sait, sont maintenant tout à fait centrales dans la vie politique et publique. Et tout le monde sait aussi que cette croissance d'intérêt n'est pas du tout indexée sur le nombre. Alors, rapidement pour introduire à la session, quels sont les liens entre identité au singulier et culture au singulier, tels qu'ils sont indiqués dans l'intitulé de la séance? Bon, terme qu'il conviendrait certainement, ça c'est un débat aussi, de mettre au pluriel, du moins et aussi de qualifier, et dont les usages historiques, linguistiques, etc. doivent être signifiés. Et là, évidemment, je ne dirai rien sur la question, mais je renvoie pour plus de précision à l'ouvrage de Vincent Descombes, « Les embarras de l'identité », Gallimard 2013, et surtout à la lecture critique qu'en a faite Jocelyne Streffenard dans la Revue européenne des sciences sociales 2014, numéro 52. Alors, deux termes, identité, culture, aussi souvent considéré par bien des chercheurs comme douteux, et même encore récemment, je lisais ce qu'en disait Boltanski, bien douteux. Mais la question évidemment qu'on peut se poser de manière un peu massive, c'est mais peut-on s'en passer? Alors, pour aborder le sujet, on va dire, sous un certain angle, je partirai de ce qu'écrivait en 1979 Michel Auriol, à propos de l'identité nationale et culturelle, dans un article qui s'appelait très précisément « Identité produite, identité instituée, identité exprimée, confusion des théories de l'identité nationale et culturelle », article qui a été publié dans les Cahiers internationaux de sociologie en 1979. Et voilà ce qu'il écrivait. « Ainsi, revendiqué par des groupes pour s'affirmer contre l'État ou par des États pour sanctionner l'inexistence politique de certains groupes, l'identité culturelle n'est rien d'autre, semble-t-il, que l'identité nationale à l'heure de la crise des États. On conçoit que cette origine historique confère à cette notion un caractère à la fois indispensable et suspect. On voit mal comment s'en priver. S'il s'agit de rendre compte des subversions collectives de la logique des États, qui sont rarement aujourd'hui du domaine d'un pur et simple affrontement de classes. Mais on voit trop bien aussi comment la référence culturelle peut servir à déguiser les dominations de classe. Alors, je ne sais pas quel est le degré de pertinence de ces propos en préface aux interventions de Jean-Luc Albert, Université de Lausanne, et Dominique Vidal, Urmis, Paris. Mais ils engagent certainement à poursuivre la critique de l'appel aux identités comme mode majeur de typification des différences ou comme indicateur de tensions extrêmement vives ou de menaces selon les propos de Boltanski. Voilà, maintenant je passe la parole à Jean-Luc Albert,